Ouvrons nos Bibles à Marc chapitre 13. Marc chapitre 13, où nous allons poursuivre nos études dans les paraboles. Marc chapitre 13. Et nous allons lire verset 28 jusqu'au verset 37. Marc chapitre 13. Alors dans ma Bible, ça fait la page 1010. Page 1010 dans ma Bible. On va lire à partir du verset 28. Marc chapitre 13 et verset 28. Peut-être, quelle traduction il y a là?
1910.
Tu veux le lire? Verset 28 au verset 30. Bien là pour que ça soit enregistré bien. Jusqu'à la fin du chapitre.
Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez.
Merci. Donc cette parabole, je n'ai pas donné un titre à cette parabole. Donc cette parabole, en fait, concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ avec tous les détails prophétiques confondus. Il n'y a pas une spécification dans la chose. Il va venir. Et donc, il donne cette parabole pour nous dire, globalement, de ne pas nous endormir, mais de veiller et d'être actif en attendant. Il dit que son retour est certain et imminent. Imminent, c'est-à-dire il va arriver à n'importe quel moment. Okay? Jésus arrivera à n'importe quel moment. Ça aurait pu à n'importe quel moment depuis qu'il est parti. Mais c'est pas encore. Il n'est pas encore là. Mais il pourrait venir aujourd'hui. Il pourrait venir demain. Il pourrait venir dans 100 ans. Nous ne savons pas. Donc, nous devons être prêts pour quand il va revenir. Donc, nous n'attendons pas comme un enfant attend les vacances scolaires. Hein? Parce que dans les vacances scolaires, la date est déjà annoncée et l'enfant fait un compte à rebours. Hein? Nous attendons Jésus plutôt comme un enfant attend son père, un marin, qui est parti pour un long voyage. Son retour est imminent. L'enfant l'attend avec une vive impatience, avec un désir de revoir son père, avec confiance qu'il va revenir et en s'assurant, bien sûr, d'être un bon enfant dans son absence. Hein? C'est un peu comme ça que nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir. Son retour sera soudain. Son retour sera rapide. Et malheureusement, pour beaucoup de monde, son retour sera inattendu. Donc nous, on va relire les versets 34 au verset 37. 34, Marc 13. À partir du verset 34, il en sera, donc le retour du Seigneur Jésus sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au matin, au milieu de la nuit, excusez-moi, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, ce n'est pas que le portier qui doit veiller. Il le dit à tous. Il le dit à nous tous. OK? Je voudrais souligner à la fin, là, au verset 36, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Donc, le premier point, c'est tout simple. Jésus ne veut pas que nous soyons endormis quant à son retour. Beaucoup de chrétiens courent après ceci et cela. Ils s'excitent pour les distractions, les chanteurs, les mouvements du moment, les doctrines exotiques. Mes amis, tout est passager sauf la volonté de Dieu. Ayez vos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous laissez pas, ou ne laissez pas vos regards se détourner vers ces autres choses, comme dans l'autre parabole, les soucis du monde, dans la parabole du semeur, qui enfin étranglent les croyants et les rendent infructueux. Hein, Dieu veut qu'on porte du fruit. Il ne faut pas qu'on se laisse détourner à droite et à gauche et qu'enfin, on oublie que Jésus va revenir. Donc, je pense que ça, c'est suffisamment dit pour la question d'être endormi. Il ne veut pas qu'on soit endormi. OK? Puis, Jésus nous dit de veiller. Car, enfin, il dit que nous devons être à la fois actifs dans son... dans l'attente de son retour. Il est venu sauver les pécheurs et de rassembler les croyants dans son église. Donc, on lit ça dans Matthieu 16, verset 18. Nous n'allons pas chercher ça, mais c'est Matthieu 16, verset 18. Jésus est venu pour sauver les pécheurs et il rassemble dans son église. Les croyants ont à approfondir la connaissance de la parole et à mettre en pratique l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ tout en évangélisant les autres et en baptisant les nouveaux croyants. Et nous trouvons ça dans Matthieu 28, verset 18 à verset 20, jusqu'à ce qu'ils viennent, comme l'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 26. Alors, je trouve que Jésus s'est donné lui-même comme exemple, pour cette idée de veiller et être actif en même temps. Son œuvre à Jésus-Christ, son œuvre était infatigable. Nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 49. « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et puis dans Jean chapitre 5 et verset 17, Jésus dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » On voit bien, Jésus n'était pas en vacances quand il est venu sur la terre. Hein? Dans Genèse chapitre 2 et verset 2, nous apprenons que Dieu s'est reposé de ses œuvres de création. Hein, le septième jour, Dieu s'est reposé. Il ne faisait plus de création depuis le jour de Genèse chapitre 2, verset 2. Maintenant, nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 16 et 17, que Dieu œuvre, il œuvre aujourd'hui à l'entretien de notre existence. s'il ne faisait plus, nous ne serons plus là. Mais il œuvre. Et c'est déjà, Jésus dit, mon Père œuvre jusqu'à présent et moi aussi j'œuvre ou agis. Et puis, Dieu est aussi actif à accomplir diverses œuvres envers l'humanité en ce moment. Et c'est dans ces dernières œuvres, ces œuvres envers l'humanité, que nous aussi, nous avons notre part à faire. Quand il dit « veillez », il veut qu'on veille à faire les choses que nous devons faire envers l'humanité. Nous devons et nous avons chacun notre tâche à faire. Et ça, c'est dans le verset 34 surtout. « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Et puis à la fin, il dit, « Ce que je vous dis, je dis à tous, veillez. » Donc, dans cet objectif de Dieu, que nous participons dans l'œuvre de Dieu, Jésus a donné de l'autorité à chacun des croyants. Il donne autorité, il donne à chacun sa tâche et il nous dit de veiller à cela, comme Jésus, à être actif, d'agir, d'être infatigable dans l'œuvre de Dieu. Alors, il y a ce mot « autorité ». Il a donné l'autorité. Okay? Ce mot « autorité », autorité veut dire, en plus d'autorité, ça veut dire « droit », ça veut dire « capacité », ça veut dire « pouvoir ». So, non seulement Dieu nous autorise à agir, mais il nous rend capables d'agir. Et cela à l'intérieur de la tâche qu'il nous a donnée à accomplir. Il nous autorise, donc il nous donne le droit, il nous donne la capacité à agir et il nous donne le pouvoir, c'est-à-dire il nous donne la capacité d'agir. Je voudrais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, dans ma Bible, ça fait page 1152. OK? Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, et c'est verset 18. Après, on va lire verset 27, et après, on va au chapitre 4, d'accord? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps, dans le corps de Christ, comme il a voulu. Donc, c'est Dieu qui décide quelle capacité, quelle autorisation qu'il donne à chacun, quel droit, quelle tâche qu'il donne à chacun. Ce n'est pas pour le pasteur de dire, bah, c'est toi qui vas faire la comptabilité. Vous allez dire, ah, bah, moi, je ne sais même pas compter. Oh. Ah, c'est Dieu qui décide ce genre de choses. Au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a donné à chacun sa tâche. Dans un corps chrétien, chaque groupe a les membres qui fonctionnent, qui font les tâches diverses et différentes, des fois deux ou trois qui font la même chose, mais selon les besoins de chaque assemblée. C'est Dieu qui choisit et c'est nous qui mettons en pratique la volonté de Dieu. Aussi, je voulais voir dans chapitre 4, donc 1 Corinthiens, toujours 1 Corinthiens, chapitre 4, et le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, quand on sait que Dieu m'a rendu capable de faire certaines choses et Dieu attend que j'agisse ainsi, eh bien, il veut qu'on soit fidèle dans l'accomplissement de sa volonté. Dieu nous responsabilise selon les tâches et selon les dons de chacun. Donc, dans l'église locale, l'église fonctionne bien selon la participation de chacun, selon, bien sûr, les talents et les tâches et les dons et les compétences que chacun a. Ce n'est pas que nous avons tous la même activité, le même don, le même talent, mais chacun a des talents et des dons différents. Donc, on a besoin de chacun dans leur élément. Donc, comme on va voir un peu plus loin, mais on a tous une intelligence différente, la sagesse différente, des capacités différentes. On a des points forts et des points faibles. Bon, on a des points faibles, donc on va faire attention parce qu'on est faible dans ce domaine-là. On a les points forts, non, ça les domaines où on va faire le mieux. Et tous pour le bien de tous. Quand on a cru en Jésus-Christ, il nous a fait des nouvelles créations. Donc je vais tourner dans Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Donc, ça fait, dans ma Bible, ça fait la page 1174. 1174 dans ma Bible. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, dans le contexte du message aux Juifs, regardez le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage. Chacun d'entre nous est l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour les œuvres bienfaisantes que Dieu a préparées d'avance afin que nous ne faisons rien. » Non, c'est pas marqué comme ça, attention. « Afin que nous les pratiquions. » Dieu attend à ça que chaque croyant soit actif selon les capacités qu'il donne à chacun. Il y a certaines choses que nous devons tous faire, d'accord? Aimer. C'est un commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons tous aimer. Faire le bien. Toutes les œuvres que Dieu donne sont les œuvres de bienfaisance. Jamais Dieu nous demande à faire le mal envers les autres, ni envers nous-mêmes. Jamais Dieu nous demande à faire le mal. C'est toujours envers le bien. Donc, faire le bien fait partie des œuvres que nous devons tous faire. Évangéliser. Évangéliser, attention, selon l'opportunité. Ce n'est pas toujours le bon moment, mais il y a des bons moments. Et selon l'opportunité, Dieu attend à ce que chacun de nous, selon nos capacités, nous évangélisons. Nous mettons un mot pour Jésus ici et là. On explique l'évangile quand on a l'opportunité. Mais, à partir de cela, Dieu a donné à chacun sa tâche. Ce ne sont pas des tâches égales pour tout le monde. C'est normal. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Chacun les points forts, chacun les points faibles. À chacun sa tâche. Mais je voudrais dire quand même attention. Dieu ne nous donne pas les dons, les talents, les capacités pour que les autres disent « Ah, mais tu devrais faire plus comme ça. » Non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il donne, mais c'est à chacun d'évaluer ses capacités et de chercher de les mettre en valeur pour le bien de tous. Donc, c'est une évaluation intérieure, pas dans le sens de autocritique pour vous taper sur la tête toute seule, mais pour trouver comment vous pouvez être le plus utile. D'accord? Donc, aussi, avoir que c'est selon la bonne volonté. Une église fonctionne selon la bonne volonté. Une église qui commence à dire, « Ah, ben, là, il faut que vous soyez là pour faire ça, et là, il faut que vous fassiez ça. » Ça, c'est pas la bonne volonté. Tôt ou tard, il n'y aura plus personne. Parce qu'une église n'a pas une chaîne autour des membres. Hein? Chacun agit selon sa bonne volonté, bien sûr, en lui, mais devant le Seigneur. Ce n'est pas une chose où nous allons critiquer les uns et les autres. Donc nous devons faire attention parce qu'on agit par amour et non pas par critique et mauvaise volonté, etc. OK? Donc ça, c'est, je pense, les points importants pour nous dans notre petite église qui est toujours en train de grandir. Donc mon objectif aujourd'hui est de vous encourager. Dieu vous a créé la personne que vous êtes. Et là, je parle à vous, mais que ce soit une autre personne, chacun est la personne qu'il est. On ne peut pas être quelqu'un d'autre. Souvent, on veut être quelqu'un d'autre. Moi, je voudrais être lui. Je voudrais être elle. Je voudrais... Non, vous ne pouvez pas. Vous êtes coincé. Vous êtes la personne que Dieu vous a fait. Il vous a doté de talents particuliers à vous. Il y a d'autres qui ont peut-être les mêmes talents, mais sont peut-être plus talentueux dans ce talent ou moins talentueux dans ce talent. OK? Chacun avec ses points forts, chacun avec ses faiblesses. Dieu vous a préparé. Et quand il dit, il a donné l'autorité et il vous a donné la capacité de faire le droit de faire quelque chose, ça veut dire qu'il vous a préparé à faire quelque chose. Mais ce que vous êtes préparé à faire aujourd'hui n'est pas ce que vous serez préparé à faire plus tard. Parce qu'il va continuer à vous préparer à faire encore d'autres choses. Donc, c'est un genre de croissance. Il vous a rendu capable et utile. Il faut que tout le monde crampons sur cette idée-là. Il vous a rendu capable et utile dans le domaine de votre tâche. Il ne demande pas à tous, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire la comptabilité. Quand à la fin, j'ai donné la comptabilité à ma femme. Ça me donne mal à la tête. Je peux le faire. Je suis bon avec les chiffres. Mais l'argent, ça me fait chauffer trop le cerveau. Donc voilà, elle est bien dans la comptabilité. J'ai passé ça à elle et ça, c'est très bien. Vous voyez? Chacun selon ses capacités, chacun est utile. À chacun selon la mesure de ses talents, de son intelligence et de sa sagesse. Et puis, c'est à vous de faire valoir vos dons. À chacun de faire valoir. En tant qu'Église, nous sommes la somme de ce que vous êtes. On deviendra ce que vous êtes capable de devenir. Et nous ne serons pas ce que vous ne pouvez pas faire. L'Église est la somme totale de ce qui est ses membres. Donc, en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte de veiller à être actif selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.